Avec ce soir le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Tuc Duhal. Denis, bonsoir Tuc Duhal.
Bonsoir messieurs, bonsoir Alain.
Bonsoir Alain. Dans une interview au magazine JD News, Laurent Wauquiez, qui est candidat à la tête des Républicains, estime qu'on pourrait envoyer les OQTF les plus dangereux en exil à Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur donner le choix, on l'écoute.
Vous êtes sur un espace qui est hors Schengen et donc qu'on peut contrôler. Vous êtes sur un archipel qui a taille humaine. Et où, si on renforce les effectifs de police et de gendarmerie, on peut mettre sous contrôle ces individus et surtout s'assurer que derrière, ils fassent le seul choix qui leur sera offert, c'est rentrer chez eux.
Alors, c'est où Saint-Pierre-et-Miquelon où vous rentrez chez vous, Alain Duhamel? Est-ce qu'il a gaffé? Est-ce que c'est la gaffe de trop pour Laurent Wauquiez?
Écoutez, Laurent Wauquiez, ça a toujours été un mystère pour moi. Je me suis souvent demandé comment quelqu'un d'aussi intelligent, car il l'est, d'aussi cultivé, car il l'est, d'aussi ambitieux, organisé, etc., pouvait commettre de tels dérapages. Et celui-là, il faut reconnaître qu'il est particulièrement choquant et consternant.
Qu'est-ce qui est choquant et consternant ?
Pour ça a l'air de considérer que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en plus avec qui on a vraiment une longue histoire, qui se sont très bien conduits, par exemple pendant la dernière guerre mondiale, etc., c'était des espèces de sauvages. On a l'air de considérer qu'un territoire qui est un territoire comme sont les territoires de la République, c'était un sous-territoire, que c'était la pire des punitions que de bon.
Et, oui, parce qu'il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année. Il a invoqué et 146 jours de pluie de neige.
Bon, bah écoutez.
C'est la punition, en fait.
Franchement.
Punition climatique.
En plus, on sait très bien ce que ça évoque et à quoi ça fait référence. Ça fait le bagne de Cayenne, etc. Et comme Laurent Wauquiez a été promis à l'agrégation d'histoire, on peut pas dire que ce soit par ignorance qu'il ait dit ça. Bon, bah voilà, je pense qu'il a fait.
Ça lui fait perdre l'élection des Républicains?
Alors, je ne dis pas ça les fait perdre, mais en tout cas, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Je pense qu'il y aura beaucoup parmi les Républicains, et notamment parmi leurs militants, je pense qu'il y a beaucoup qui ont été choqués, oui.
Mais ce n'est pas une stratégie, choquer pour exister ?
Je vais vous dire, moi, je suis passé par tous les états. Hier soir, quand j'ai reçu ça sur mon téléphone, parce que, en fait, honnêtement, il y a pas mal de gens qui ont échangé cette couverture. J'avoue, la plupart du temps, pour se moquer de Laurent Wauquiez. Au début, effectivement, j'avais un peu cru à une farce, parce que je reconnaissais pas les mots de Laurent Wauquiez, que tout d'un coup ça sortait un peu de nulle part, que c'était la punition pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu étrange. Ce matin, je me suis réveillé Politico, pour pas les nommer, qui est une newsletter assez intéressante, hein, sur le suivi de l'actualité politique nationale, qui débriefait beaucoup tout ça. Vous en êtes la preuve ce soir. Ça fait parler, donc je me suis dit bon, il y a eu énormément de réactions dans la classe politique. Oui. Je me suis dit finalement à tout perdre, est-ce que c'était pas une bonne stratégie pour l'invoquer? Parce que qu'on dise du bien ou du mal de vous, tant qu'on parle de vous, effectivement, c'est toujours positif.
Il faut quand même rappeler qu'il est en campagne.
Il est en campagne
pour la présidence de son parti et il n'est pas en bonne position.
Ce n'était pas sa position de départ. Et honnêtement, aujourd'hui, cet après-midi, à l'heure où je vous parle, je vous dirais que quand même, je pense que c'est extrêmement risqué pour lui à moyen terme. Ok, on va parler de lui pendant 48 heures, mais c'est pas réaliste sur le fond. C'est pas la bonne stratégie par rapport à son adversaire du moment, parce que si Bruno Retailleau était quelqu'un de réputé faible et mou sur ces questions-là, effectivement...
Oui, c'est aussi une façon de dire que Bruno Retailleau n'a pas encore de résultats très concrets sur cette question des OQTF.
D'accord, oui, mais c'est certainement pas en employant l'argument qu'il a utilisé cette fois-ci, Laurent Wauquiez, qu'il va marquer un point vis-à-vis de Bruno Retailleau, franchement. Bruno Retailleau, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Moi, comme vous le savez, il m'est arrivé de le critiquer. Mais il n'est vraiment pas suspect de faiblesse ni d'inactivité. Et puis, de toute façon, se servir pour les OQTF, j'ai aucune sympathie pour les OQTF.
On parle des personnes dangereuses, oui.
Oui, c'est des gens dangereux par nature. Donc, s'ils s'en vont, tant mieux. Mais c'est aussi des êtres humains. On a une constitution, des droits, donner le sentiment qu'on va leur...
Les exiler.
Les exiler, oui, mais puis dans des conditions présentées comme épouvantables. C'est assez inhumain.
Ouais. Puis le corps électoral de cette élection LR qui donc concerne les adhérents des Républicains et quand même un corps électoral qui, lui, a conscience que Bruno Retailleau n'est pas forcément faible sur ces questions-là et qui, je ne sais pas si de doubler Marine Le Pen très au large sur sa droite est une stratégie maligne. Il faut rappeler quand même que quand il y avait eu une élection interne aux Républicains la dernière fois qui opposait Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, qui était sur une ligne, on va dire, plus sociale, plus à gauche de la droite que ses deux concurrents, Pradier avait quand même fait 25%. Et Bruno Retailleau, d'ailleurs, avait fait un bon score aussi, même si c'est Ciotti qui avait gagné. Donc, à long terme, puis le problème avec Laurent Wauquiez, et là, je rejoins un peu ce que disait Alain au début, c'est que moi non plus, hein, j'ai moins d'heures de vol que Alain, mais moi non plus, je comprends
vous
pas trop...
Vous avez de la chance, et c'est vrai.
moi non plus, je comprends pas trop Laurent Wauquiez, parce que un coup, il essaye de se démarquer de ses concurrents par, justement, des discours plus rassembleurs, plus sociaux, plus bienveillants. Un coup, tout d'un coup, il se radicalise, mais...
Il retourne dans ses travers.
J'irais à l'extrême, parce que... Oui. Mais je veux dire, même Marine Le Pen n'aurait pas proposé ça. Il y a quelque chose d'un peu outrancier.
Il est à droite de Marine Le Pen.
Bah, sur ce coup-là, oui, bien entendu. Oui. Et ça sera utilisé contre lui. Oui. Mais
elle l'a repris, d'ailleurs, Marine Le Pen. Elle l'a critiqué.
Bien sûr. Non, mais puis elle est assez intelligente dans ces cas-là. Ouais. Si elle peut marquer un point, elle le fait, évidemment. Mais moi, ce qui me frappe chez lui, c'est qu'il fait de la politique en zigzag. C'est-à-dire, un coup, il part à gauche, un coup, il part à droite, enfin, assez rarement à gauche, il faut bien le dire, mais il a des arguments, en dehors du fait que c'est quelqu'un qui a de l'envergure. Bon, et c'est quelqu'un qui, par exemple, dans sa région, alors il est critiqué, il est assez despotique.
Auvergne-Rhône-Alpes,
etc. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais, au contraire. Il pourrait utiliser comme argument, moi je sais gouverner, regardez ce que je fais dans ma région, des choses comme ça, qui je pense, puisque c'est d'eux dont il s'agit, pour des militants LR, donne confiance.
Oui, mais est-ce que derrière, c'est pas une idée qui veut souligner, à savoir que ce gouvernement Bayrou avec Bruno Retailleau est trop mou, n'a pas de résultat, et que lui, il se dit, moi, si c'était moi, ça avancerait, tous ces dossiers, j'aurais des résultats.
Les électeurs de cette compétition interne savent très bien à quel point d'empêchement politique on est, que l'Assemblée est ingouvernable, qu'il n'y a pas de majorité, que fallait pas attendre énormément de choses de François Bayrou. Les électeurs LR, en tout cas les adhérents LR ont
dans
jamais...
Dans ce cas-là, il fallait pas que les LR aillent avec Bayrou. Alors.
Non mais si, parce qu'ils savent que pour, comment dire, à la marge influer sur les choses, c'est mieux d'avoir Bruno Retailleau pour un adhérent LR, c'est mieux d'avoir Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur que Manuel Bompard. Bon, je caricature, qu'un insoumis.
Ça n'a pas été envisagé.
voilà. Mais en tout cas, oui. que d'autres gens...
Bompard, l'insoumis.
Oui, pas
de confusion avec le ministre.
Ou avec le président de Carrefour. Mais en revanche, ce que les adhérents LR reconnaissent à Bruno Retailleau, ou en tout cas, pourquoi ils placent leurs espoirs dans des responsables politiques de ce parti-là, et pas, par exemple, en Marine Le Pen ou dans d'autres, c'est parce que pour eux, et je dis pas qu'ils ont forcément raison, mais en tout cas, c'est la base du choix politique d'un électeur LR, c'est de se dire, on veut de la radicalité, mais on veut des choses opérationnelles.
Alors,
on veut que ça atterrisse. C'est un parti de gouvernement. Là, c'est une proposition populiste, entre guillemets.
Mais ça n'est pas... L'électorat LR, en l'occurrence, c'est les militants LR qui sont à droite de l'électorat LR.
Ils sont plus à droite.
Oui, l'électorat LR, il y a eu une partie de gens très conservateurs, voire réactionnaires, et aussi une partie de gens modérés, voire libéraux. Chez les militants, c'est plus rare, les militants, mais c'est comme ça dans tous les partis.
Oui, non, alors, regardez le score d'Aurélien Pradier.
Il n'a pas gagné.
C'est eux qui visent.
Et surtout, si on ajoutait, par exemple, Ciotti et Retailleau, ça faisait quand même une bonne base.
Oui, mais ils sont militants RN, ils sont pas militants RN.
Mais d'ailleurs, de toute façon, quand je dis ça, il n'y a pas de honte à ça.
Bien sûr,
mais ce sont leurs convictions.
Bien sûr.
Elles sont assumées. Donc, ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont, aujourd'hui, à la droite de la droite, toujours dans la droite dite républicaine.
Oui.
Bon, on peut discuter les adjectifs, mais toujours à la droite de la droite et plus à droite que n'était LR. Alors, vous allez encore me dire que je radote, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est-à-dire que ce qui descend du gaullisme a quand même progressivement été vers la droite. Et la preuve est que cette élection pour la présidence de LR, aujourd'hui, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, c'est une élection très à droite.
Oui. Et ce qui veut dire, Alain Etuc-Duhal, que l'élection à la tête du LR, elle ne se fera... Alors, ce sont les militants, les adhérents qui votent. Hein, mais elle ne se fera que sur un thème, c'est celui de la sécurité et de l'immigration. Alors,
moi, je suis assez persuadé que c'est assez logique que l'électorat LR ou les adhérents LR se sont droitisés, puisque de toute façon, toute la société s'est droitisée. Et pourquoi toute la société s'est droitisée ?
La question est gagnée, essentiellement.
C'est pas parce qu'il y a une espèce de miracle idéologique qui s'est passé, ou de cauchemar idéologique, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est parce que le réel, lui, a imposé cette droitisation à l'opinion. Parce qu'effectivement, il y a 40 ans, il y avait moins de problèmes liés à l'immigration. Il y a 40 ans, il y avait moins de problèmes liés à l'islamisme, etc.
Surtout, il y a 40 ans, il y avait des espérances économiques qu'il n'y a pas. Et il y avait, ce qui est très important dans la détermination de tout le monde, il y avait moins d'anxiété sur le niveau de vie, les pressions, l'écologie qui ceci, l'énergie qui cela. Et autrement dit, pour dire les choses carrément, il y avait moins d'anxiété qu'aujourd'hui.
Vous pensez ça ? Moi, je pense que le sentiment de dépossession immatérielle, de dépossession culturelle, est quelque chose, un moteur de vote aujourd'hui et un moteur d'anxiété pas moins grand que les risques climatiques.
Mais je ne dis pas que ça ne compte pas, d'ailleurs.
Je pense que c'est majeur dans l'électorat de droite.
Non seulement je ne dis pas que ça ne compte pas, mais je ne suis pas myope, donc j'observe que c'est comme ça dans toute l'Europe. Si c'est comme ça dans toute l'Europe, c'est que ça correspond à une évolution de fond de la société, qu'elle fasse plaisir ou qu'elle ne fasse pas plaisir. Mais dans cette histoire, et pour en revenir à la présidence de LR, il est évident que si, après ce qu'il vient de dire maintenant, et qu'il ne sera pas oublié dans un mois, après ce qu'il vient de dire, il sera considéré comme plus à droite que le ministre considéré, à tort ou à raison, comme le plus ferme et le plus décidé à maintenir l'ordre. C'est quand même une drôle de position.
En fait, moi je ne suis pas surpris effectivement qu'il y ait un déplacement du barycentre de la droite de gouvernement encore plus vers la droite. En revanche, je suis persuadé que la manière dont la droite peut proposer des choses, des programmes qui sont opérationnels, on dit que c'est un parti de gouvernement, c'est pas pour rien qu'ils s'accrochent à ce qu'ils leur, la dernière chose qui leur reste de leur capital politique, c'est d'être un parti de gouvernement. Ah. Et que aujourd'hui, on peut tout à fait être très radical. François Fillon, en 2017, était très radical dans sa proposition pour la
ça
primaire.
Ça ne fait pas de doute.
Et pourtant, personne ne doutait que c'était un homme d'État ou que il avait des gens autour de lui capables de mettre en œuvre des politiques publiques, de faire voter des lois, et même de les écrire. Là, le problème de Laurent Wauquiez, c'est que sa proposition ne résiste pas 3 minutes 30 à l'examen technique de son application. C'est ça le seul problème.
Oui, non, c'est pas le seul problème. C'est un problème.
Puisque de parler des OQTF, ça fait plaisir à tout le monde. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Je suis d'accord sur ça, mais ça n'est pas que ça dans cette campagne. Ce qui est quand même, je trouve, extrêmement inquiétant et de mauvais augure pour la suite des choses, c'est que Laurent Wauquiez mène un double jeu. C'est-à-dire qu'il a des ministres au gouvernement, des gens de poids et des gens identifiés comme vraiment membres orthodoxes et symboliques de LR. Bon, et que en même temps, en sous-main, il passe son temps à essayer d'empêcher des lois de passer ou d'imposer d'autres lois. C'est-à-dire qu'il mène un double jeu. Il a des ministres importants au gouvernement. Et en même temps, il donne pas l'impression, il s'active pour essayer de casser les efforts du gouvernement. Et Dieu sait que le gouvernement a besoin de faire des efforts.
Merci Alain et Etuc-Duhal. On verra donc si cette affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon pèse ensuite dans l'élection, dans le duel Wauquiez-Retailleau. Mais je vous propose de passer d'abord par le tribunal de Bobigny avant d'attaquer la deuxième partie de BFM Story. Retrouver Boris Karlamov en direct pour voir cette décision de justice, Boris, contre un internaute qui avait menacé la présidente du tribunal qui jugeait Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, Boris.
Oui, absolument. Gérard B., 76 ans, ce retraité d'une entreprise d'informatique a donc été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à une peine de 3000 euros d'amende. Ce septuagénaire, il avait en effet publié sur son compte X des propos menaçants envers la présidente du tribunal correctionnel qui avait jugé Marine Le Pen et qui avait rendu son délibéré le 31 mars dernier. Il avait assorti ses propos et bien d'une photographie d'une guillotine. Il n'a eu de cesse pendant cette audience de regretter son tweet, de regretter ses écrits. Je n'ai jamais pensé ni écrit des menaces de mort contre qui que ce soit. Voilà ce qu'il a déclaré face au tribunal. Et je vous propose justement d'écouter la réaction de son avocate, Maître Radouani. Elle est au micro de Marjorie Marcillac.
Mais effectivement, hein, monsieur est extrêmement choqué de ce qui lui tombait dessus, puisque, je rappelle, il a été jugé sous le mode de la comparution immédiate, donc c'est des procédures qui sont extrêmement rapides. Monsieur a été interpellé, placé en garde à vue et immédiatement présenté à un juge. Je rappelle que c'est un homme d'un certain âge, qui n'a jamais eu affaire à la justice, et donc forcément, c'est toujours choquant d'avoir affaire à ce type de procédure, plus encore quand on est dans la situation de monsieur. Et donc, monsieur, effectivement, il ne s'attendait pas du tout à ce que son tweet puisse avoir une telle, de telles répercussions sur sa vie et de telles conséquences, effectivement. Donc, on avait un décalage entre le message que monsieur souhaitait faire passer et comment ce message a pu être perçu.
Et Gérard B., marié, père de deux enfants, n'avait jusqu'à présent aucune mention à son casier judiciaire. Il a désormais, s'il le souhaite, 10 jours pour faire appel de cette décision.
8 mois de prison avec sursis pour cet internaute de 76 ans. C'est allé vite, comparution immédiate. Hein.
Bah, c'est le principe de la comparution immédiate. Ah oui. Ça, ah oui. Hein. Mais je dirais que quand il y a des imbéciles pour lancer des menaces de mort, il finit par y avoir des imbéciles pour les mettre en œuvre. Et que ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on peut malheureusement vérifier.
Tuc Duhal, réaction ?
Réaction.
Il a menacé la magistrate, la présidente du tribunal.
Évidemment que c'est condamnable et que ça doit être condamné de menacer une magistrate. Mais c'est toujours pareil. On aimerait que s'applique cette sévérité à tous les auteurs de menaces qu'il y a tous les jours et qui n'est pas seulement contre des magistrats.
Oui, mais en particulier les magistrats. Pas seulement les magistrats, évidemment, mais en particulier les magistrats.
Et parce que la justice aille vite pour tout le monde aussi. Pas seulement quand il s'agit d'un magistrat.
Excusez-moi, menaces contre des policiers qui sont jugés moins vite et moins sévèrement.
Alors, sur ce sujet-là, ça, c'est une évidence. Mais simplement, il se trouve que la justice, elle se hâte lentement, comme on le sait, et ensuite, tant qu'il n'y aura pas un nombre suffisant de magistrats et de tous ceux qui travaillent avec eux, ça sera lent. Hein, là, c'est comme ça.
Ça a été vite, je veux dire. Bien sûr.
Mais oui, mais parce que c'est s'en prendre à une magistrate,
c'est grave.
En plus, oui, puis dans
quel, en plus, on montre un exemple.
Puis dans un procès quand même qui n'est pas n'importe quel procès. Bon, c'est lancer un signal.
Et ça fera réfléchir peut-être certains cachés. Et ça sera peut-être dissuasif. Le compte X pour menacer.
Absolument. Justement. Et je souhaite tout à fait, pour répondre à Tuc Duhal, que quand on menace de la même façon des policiers, ils soient de la même façon vite et bien défendus.